première question que vous m'avez posée, c'est celle de la robustesse de nos systèmes financiers dans le contexte de la remontée actuelle des taux d'intérêt. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on a eu pendant très longtemps, une vingtaine d'années, des taux d'intérêt égaux à zéro, ou même peut-être quelquefois inférieurs à zéro en termes réels, et que tout d'un coup, les taux d'intérêt remontent parce qu'on a à faire face à une crise inflationniste, ce qui se passe, c'est que la valeur des titres qui étaient assortis d'un taux d'intérêt proche de zéro tombe, puisqu'on peut trouver des titres à 3, 4 ou 5% sur le marché compte tenu des taux nouveaux. Donc vous avez un effondrement de la valorisation des taux d'intérêt sur les portefeuilles préalables à la crise. Alors, il faut distinguer, pour répondre à cette question sur la robustesse des systèmes, en Europe, nous sommes mieux préparés que ne le sont les États-Unis pour faire face à ce problème de la crise, de la valorisation des actifs financiers qui se pose du fait de la remontée des taux. En effet, l'Europe, à travers les réunions de Bâle, avait établi une règle qui était très prudente et qui était la suivante. Dans les banques, les portefeuilles d'actions, surtout d'obligations, qui étaient assortis de taux faibles, voire nuls, devaient être provisionnés et comptabilisés dans la comptabilité des banques comme des valeurs à déterminer au jour le jour du point de vue de leur valorisation. En revanche, les portefeuilles de bons qui n'étaient pas destinés à une vente à tout moment, mais qui étaient ce qu'on appelle « held to maturity », c'est-à-dire conservés par les banques jusqu'à leur échéance, n'étaient pas soumises à cette obligation d'ajustement en quelque sorte quotidien que ne l'étaient les portefeuilles qui étaient plus volatiles et qui n'étaient pas tenus jusqu'à l'échéance. Alors, l'Europe a bien fait d'appliquer cette règle de la valorisation en valeur de marché à tout moment des portefeuilles qui n'étaient pas tenu jusqu'à maturité, jusqu'à échéance, parce que ça lui a permis de réajuster en quelque sorte le provisionnement des portefeuilles aussitôt. Aux États-Unis, où la même règle de Bâle s'applique, les régulateurs, ou plutôt les superviseurs américains, n'avaient pas appliqué la réglementation qui leur était cependant imposée. Parce que l'administration Trump avait considéré que les petites banques régionales américaines étaient trop tenues, trop dirigées, trop influencées par la réglementation de Bâle, et on les en avait dispensées il y a quelques années. Mais lorsque les taux d'intérêt se sont mis à remonter à partir de 2021-2022, ces banques américaines, surtout celles de la côte ouest des États-Unis, se sont trouvées en grande crise. Alors, sur la côte ouest, vous aviez un modèle de banque qui était très dangereux de ce point de vue-là. C'est parce que les banques régionales d'importance moyenne, comme la Silicon Valley Bank, comme Signature Bank, toutes ces banques avaient de très gros portefeuilles. Et je dirais même une concentration très dangereuse de leur portefeuille sur des titres à très bas taux d'intérêt. Et le régulateur, le superviseur américain, n'avait pas insisté pour qu'elle provisionne à la valeur de marché ces titres. Le résultat a été que lorsque le roi est devenu nu, qu'on a vu que c'était la valeur de ces titres avait complètement changé puisque les taux d'intérêt avaient fortement remonté, Les déposants dans ces banques ont compris que l'actif de ces banques, qui était très concentré sur ces valeurs, était en train de s'effondrer, et leur réaction a été de retirer leurs dépôts, ce qui a évidemment compliqué encore le problème pour les banques en question et les a rendues en faillite. Et c'est le gouvernement américain qui a décidé, afin d'éviter une généralisation de cette crise de la côte ouest des États-Unis vers l'ensemble du pays, c'est le gouvernement américain qui a décidé de garantir les dépôts des déposants qui essayaient de s'en aller de ces banques-là, et a donc eu recours à la puissance publique, sans qu'il y ait de prime d'assurance de payer dans cette affaire, pour rassurer les déposants. Donc aux États-Unis, vous avez eu double faute. D'une part, on n'a pas appliqué la réglementation, et deuxièmement, quand le drame est arrivé, on a eu recours à ce qu'on appelle le moral hazard, le hasard moral, c'est-à-dire le fait de tirer sur la dépense publique, sur la ressource publique, alors que les intéressés n'avaient pas payé de prime. Alors, les banques européennes ont été beaucoup mieux, en quelque sorte, se sont beaucoup mieux tirées de cette affaire, et la robustesse est beaucoup plus forte en Europe de ce point de vue qu'elle ne l'a été aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on a maintenant pris de bonnes résolutions pour éviter le désastre que je viens de dépeindre. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question est formulée de manière suivante. D'où pourrait venir une crise financière? Alors, cette question mérite d'être reposée. Parce que la crise financière existe déjà, ce n'est pas qu'elle pourrait provenir de tel ou tel élément, elle est déjà là. Elle est déjà là pour deux raisons et sous deux manifestations. La première raison, c'est que depuis une vingtaine d'années, la Banque Centrale Européenne ne s'occupe pas de l'expansion du crédit. Or, le crédit, tant au gouvernement qu'aux entreprises ou qu'aux particuliers, a littéralement bondi depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et donc, quand vous avez beaucoup de crédits qui s'accroissent d'une manière exponentielle, vous avez plus de risques de défaut, parce qu'il y a plus de gens qui empruntent, et parmi les gens qui empruntent, il y a des problèmes où il y a des situations qui sont difficiles à résoudre, surtout quand les taux d'intérêt se mettent à remonter. Et souvent, ces crédits-là sont des crédits à taux variable, c'est-à-dire qu'ils épousent l'historique de la remontée des taux d'intérêt. Alors, cette situation que je condamne, que je réprouve depuis des années, n'a pas été considérée comme importante par les banquiers centraux, qui ont laissé le crédit pratiquement tripler sur les 20 dernières années, ce qui est une aberration dont l'histoire n'a pas d'équivalent. Alors, ce qui se passe, pour répondre à votre question sur la probabilité d'une crise, ce qui se passe, c'est que une partie, pas la totalité, mais une partie des débiteurs qui voient tout d'un coup leur taux variable monter avec la remontée des taux, et qui n'y étaient pas préparés, puisque l'ambiance précédente était que éternellement les taux seraient proches de zéro, ils ont été surpris. Et non seulement ils ont été surpris, mais ils ont été souvent dans la catégorie, si vous voulez, la plus vulnérable de ces débiteurs, ils ont été souvent déjà en difficulté. Et le premier risque d'une crise financière, c'est le défaut des débiteurs. Alors, le défaut des débiteurs n'est pas encore très visible, mais si vous regardez les statistiques sur ce qu'on appelle les NPL, les Non-Performing Loans, les prêts qui posent problème aux débiteurs, vous voyez que la partie de ces prêts qui n'est pas payé, qui est non-performing, tend à augmenter fortement depuis quelques mois. Le deuxième élément de la crise, qui selon moi est déjà là, c'est la crise née du relèvement rapide des taux d'intérêt dans une ambiance qui pendant 20 ans était caractérisée par des taux d'intérêt nuls. Alors c'est la crise que nous avons eue en Amérique, et en particulier sur la côte ouest des États-Unis, mais c'est une crise qui est un peu latente, parce que plus le temps passe, plus la difficulté pour ceux qui se sont endettés à 0% et qui voient maintenant que leur endettement est à 3, 4 ou 5%, ces difficultés vont s'aggraver, se manifester de manière plus évidente que dans les tout premiers mois du renversement des taux d'intérêt. Alors, c'est grave d'avoir, sur le plan de la conception de la politique monétaire, c'est grave d'avoir laissé cette situation de taux zéro tout d'un coup, si vous voulez, se transformer en une crise financière du fait du relèvement assez substantiel des taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques centrales. Il n'aurait jamais fallu rester pendant 20 ans sur des taux d'intérêt à zéro, parce que la réalité du monde financier et économique, c'est que l'épargne est rémunérée. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui épargne pendant 20 ans sur un projet d'électricité ou d'écologie, vous n'aurez rien comme rémunération. Si on lui dit ça, il n'épargne pas pour de tels objets à long terme. Il garde son argent sous forme liquide, sous forme de billets, sous forme de compte en banque, mais il ne l'investit pas dans des projets réels. Et donc, la grande erreur de la politique monétaire depuis quelques années, ça a été de vouloir à tout prix maintenir hors marché à 0% les taux d'intérêt, parce que on a coupé l'épargne des investissements productifs à long terme, on a de ce fait réduit les investissements productifs et de ce fait on a ralenti le rythme de croissance de l'économie et ce qui n'a pas arrangé le chômage. Alors, la troisième question et la dernière que vous me posez, c'est quelles réformes faut-il introduire pour éviter les problèmes que nous avons aujourd'hui à résoudre. Alors je crois que c'est assez simple. Il faut reprendre les erreurs de la politique monétaire qui ont été commises depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années et les changer, les réformer. Alors la première erreur, ça a été de forcer les taux d'intérêt à demeurer à 0%. Il faut laisser le marché des capitaux fixer l'équilibre entre l'offre et la demande d'argent, et en particulier, c'est vrai pour les échéances à long terme. Il faut bien comprendre que, en obligeant le système à réduire les taux d'intérêt à 0%, le banquier central se meut dans une politique qui ne devrait pas être la sienne. Qu'est-ce qu'il décide, le banquier central, dans ce cas-là? Eh bien, il décide que le débiteur va être favorisé par les taux zéro et que les créanciers, les épargnants, les gens qui mettent de l'argent de côté, vont être pénalisés par les mêmes taux zéro. Pourquoi voulez-vous qu'un banquier central, qui n'est pas élu par la nation, qui n'a aucun contrôle de caractère parlementaire, décide tout d'un coup que ceux qu'on va privilégier, c'est les débiteurs, et ceux qu'on va pénaliser, c'est les apporteurs d'épargne? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Et c'est une transformation malheureuse de la politique monétaire que d'introduire ce genre de choix de société dans l'arsenal des décisions des responsables de la politique monétaire. La deuxième chose qu'il faut faire après cette normalisation des taux d'intérêt, qui est en train d'ailleurs de se faire, mais de se faire à contre-cœur à travers l'inflation. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est appliquer avec fermeté les réglementations qui pèsent sur les banques. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe avait appliqué rigoureusement ces réglementations et qu'elle avait évité une crise bancaire aujourd'hui. Il faut évidemment que cette attitude de prudence et d'acceptation de la régulation continue dans l'avenir. La troisième chose qu'il faut faire, c'est d'éviter de croire que tous les problèmes seront réglés par la dépense publique. Nous avons en France un triste privilège, c'est de croire que, en s'endettant, le gouvernement peut tout faire, peut redistribuer ce qu'il veut redistribuer, peut faire monter le niveau de dépenses publiques quasiment sans aucune contrainte. Or, c'est une attitude qui est erronée. La hausse des dépenses publiques finit, à partir d'un certain moment, par compliquer la vie des gouvernements qui se présentent sur le marché pour emprunter. Et c'est une erreur que de croire que la dette publique, qui est le résultat de tous ces déficits budgétaires annuels, puisse monter allègrement au-delà de 100% du PIB, ce qui est le cas actuel, sans aucune espèce de conséquence. La vérité est différente. La vérité, c'est qu'il faut contenir la montée de la dépense publique si on veut préserver la capacité de l'économie à investir et aussi à croître les salaires comme il le faudrait. Nous sommes depuis une vingtaine d'années sous l'influence de ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, où tout va dans le favoritisme exercé à l'égard des débiteurs, de ceux qui empruntent, et la rigueur s'appliquant aux malheureux épargnants. Il faut changer cette méthode. Il faut réduire les dépenses publiques qui ne sont pas indispensables. Et à ce moment-là, on redonne de la marge aux entreprises qui peuvent se permettre d'investir dans le productif, ce qu'elles ne font plus depuis des années. Et comme elles ne le font plus, le productif s'étiole et la désindustrialisation de notre pays, qui est immense, continue sans aucune difficulté. Donc il faut changer l'état d'esprit. Si on veut croire qu'on peut avoir indéfiniment un déficit budgétaire qui nous mène à 110, 115, 120% sans aucune conséquence pour l'économie, on se trompe. La vérité, c'est qu'il faut éviter la combinaison de deux données que je vois apparaître. La première, c'est la continuation des déficits publics, et la seconde, c'est une plus grande rigueur de la politique monétaire du fait, si vous voulez, de la géographie politique de la Banque Centrale Européenne. Voilà ce que je voulais dire sur la troisième question. Donc, je peux la résumer de la manière suivante. Il faut normaliser la politique monétaire, éviter cette facilité qui l'a caractérisée depuis des années, redonner au marché la charge de fixer le taux d'équilibre entre les apporteurs de capitaux ou les demandeurs de capitaux, et éviter de tout faire reposer indéfiniment sur la hausse de la dépense publique. Merci beaucoup pour vos questions.